bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera l'interview en partenariat avec le service radio de la Fédération protestante de France. Et nous terminerons avec Bernard Sauvagnat pour sa chronique Des gens comme vous et moi. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour. Les fuites urinaires, voilà un sujet encore tabou. Il touche pourtant de nombreuses femmes, une sur trois, souvent jeunes et actives. Par gêne ou conviction qu'il n'y a rien à faire, ces femmes sont trop souvent murées dans le silence. Ces fuites peuvent littéralement gâcher la vie. Or, comme nous l'explique le professeur François Habe, urologue à l'hôpital des Diaconesses à Paris, des solutions à la fois simples et pratiques existent. L'incontinence urinaire, explique-t-il, chez les femmes actives, c'est ce que nous appelons l'incontinence d'effort, et c'est aussi la plus fréquente. Il s'agit de petites fuites urinaires d'intensité variable dès que l'on fait un exercice physique. Cela peut être le simple fait de tousser, d'éternuer, de marcher très vite, de courir après son bus, de faire du sport. Ces pertes involontaires d'urine sont dans la majorité des cas provoquées par un affaiblissement des muscles du périnée. Ces muscles soutiennent en réalité le vagin. Après un accouchement par exemple, ils sont moins performants. Pour le professeur Habe, c'est encore un sujet très difficile à aborder. À peine une femme sur dix dans ma consultation évoque directement ce problème. La plupart utilisent des périphrases, car pour elles, les mots incontinence ou perte d'urine évoquent vieillissement et personnes âgées. Or, l'incontinence urinaire d'effort est une maladie des femmes jeunes et actives. Afin de briser les idées reçues sur ce sujet, le professeur Habe tient à préciser que les serviettes de protection ne sont pas la solution. Il s'insurge même contre les publicités sur ces protections. C'est un pis-aller, un moyen qui doit rester provisoire, et donc je pense que nous devrions faire des campagnes d'information sur les différentes prises en charge. Les messages publicitaires ne proposent que du palliatif, mais ce n'est pas une solution. Voilà qui est dit. Et ceci explique également la fatalité ressentie par les patientes. On leur laisse entendre que cette forme de faiblesse du périnée pourrait être liée à l'évolution naturelle du vieillissement de l'appareil urinaire. Ce qui est complètement faux, insiste le professeur Habe. Autre difficulté abordée par notre spécialiste, le manque d'écoute, voire de formation des professionnels de santé. Dans ce contexte, il reste encore des progrès à faire pour dépister les femmes. Je les invite à en parler avec leur médecin ou leur gynécologue. Une fois l'incontinence diagnostiquée, le traitement de première intention est la rééducation périnéale. Pour le professeur Habe, pour faire disparaître les fuites, nous prescrivons un travail de renforcement musculaire du périnée. La patiente pourra être accompagnée par un professionnel de santé comme une sage-femme ou un kiné. Elle aura la possibilité de poursuivre à domicile à condition qu'elle connaisse bien les techniques de renforcement. Aujourd'hui, chaque femme peut se rééduquer de façon simple chez elle en toute intimité avec KEAT, un électrostimulateur périnéal qui, grâce à sa sonde vaginale, permet de tonifier le périnée. Disponible sur prescription médicale, c'est un outil intéressant et efficace, notamment en prolongement d'une rééducation avec un professionnel.
Avec Destination Santé, Martine Jomain.
Bonjour, c'est désormais un fait établi. Le fait d'emprunter les escaliers participe au maintien d'une bonne forme physique. Des chercheurs canadiens vont plus loin et affirment que plus une personne grimpe de marche, plus son cerveau reste jeune. Et ce, d'autant plus si elle a suivi plusieurs années d'études. Pour ces scientifiques de l'université Concordia, plus le nombre de marches d'escalier et d'années d'études est élevé, plus le cerveau demeure jeune. Pour tirer cette conclusion, les chercheurs ont soumis 331 volontaires à des examens d'imagerie par résonance magnétique, des IRM. Ainsi, ont-ils mesuré le volume de matière grise présente dans le cerveau des participants. Parce qu'il est causé par la rétraction neurale et la perte de neurones, le déclin de la matière grise constitue un aspect très visible du processus de vieillissement chronologique, précise-t-il. Ils ont enfin comparé ces résultats au nombre de marches grimpées et d'années d'études terminées. Les résultats sont sans équivoque. L'âge du cerveau diminue de 0,95 ans pour chaque année d'études terminée et de 0,58 ans pour chaque étage grimpé quotidiennement. S'enthousiasme Jason Steffener, principal auteur de cette étude. Ce travail révèle en outre que de simples gestes concrets permettent de ralentir le vieillissement cérébral, contrairement à d'autres types d'exercices plus vigoureux. Grimper des escaliers est une chose que les adultes plus âgés peuvent faire au moins une fois par jour. Retrouvez-nous sur www.destinationsante.com.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne dès vendredi prochain. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien il vous suffit de nous adresser vos suggestions, vos remarques ou bien vos questions depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100-77-193 Damary-Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre interview mensuelle en partenariat avec la Fédération protestante de France et nous terminerons avec Bernard Sauvagnat pour sa chronique « Des gens comme vous et moi ».
L'invité du service radio de la Fédération protestante de France.
Aujourd'hui, nous recevons Pauline Simon, chargée de communication à la Fédération d'entraide protestante. Fin janvier, les délégués à l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France ont conclu leurs travaux par trois recommandations. Et la première concernait la promotion du service civique auprès des membres de la Fédération protestante de France pour proposer des lieux de service et inviter des jeunes à s'engager, comme il est écrit. Vous avez créé à la FEP le carrefour de l'engagement et j'en déduis que cette recommandation vous interpelle et vous soutient particulièrement, Pauline Simon. Alors, le service civique est une des formes d'engagement, mais elle n'est pas la seule dans le cadre de la FEP, n'est-ce pas, Pauline Simon?
Oui, tout à fait. On peut penser au service civique, qui est une forme de volontariat, mais il existe aussi du bénévolat, qui est une forme d'engagement encore différente. Et puis, on peut s'engager aussi à travers des stages, à travers une activité qui est salariée. Et c'est ce que propose finalement le carrefour de l'engagement, c'est de trouver des formes d'engagement diverses et qui répondent aux valeurs communes et des associations qui accueillent et des personnes qui veulent s'engager.
Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Fédération de traite protestante est constituée d'un très grand nombre d'associations qui pourraient avoir besoin de personnes qui s'engagent à leur égard.
Tout à fait, et c'est vraiment le lieu, le carrefour de l'engagement, hein, cette plateforme internet, est le lieu pour nos associations, pour qu'elles puissent publier donc leurs offres, hein, et une fois de plus, quelle que soit la forme qu'elles prennent, que ce soit du volontariat, du bénévolat, du salariat, des stages, et ça permet donc aux personnes qui souhaitent s'engager d'être assurées aussi de trouver une structure d'accueil qui soit en adéquation avec leurs valeurs, puisque tout le monde se réunit autour de la charte du carrefour de l'engagement, qui porte un certain nombre de valeurs communes à tous.
Alors les raisons de s'engager sont complètement diverses, n'est-ce pas, selon les âges, selon les compétences.
Bien sûr, alors les motivations sont relatives à chacun. Après, on constate qu'il y a quand même des motivations qui reviennent régulièrement, l'envie d'être utile pour les autres, c'est une motivation qu'on retrouve très souvent, l'envie aussi de participer à la société, de s'engager dans la société.
Le partage de compétences aussi.
Tout à fait, la rencontre aussi avec les autres, créer du lien social, que ce soit pour des personnes qui sont par exemple retraitées et qui n'ont pas pas envie de se couper du reste du monde, si je puis dire. Ça peut être des jeunes aussi qui ont envie de découvrir un petit peu l'univers du travail, mais d'une façon différente. Voilà, les motivations sont très diverses, mais il y a toujours en tout cas cette volonté de participer, d'être en contact avec les autres et de se rendre utile.
Alors il y a une notion très importante, c'est le fait que le bénévolat soit complètement gratuit, alors qu'en revanche, le volontariat peut avoir un aspect financier qui entre dans l'engagement.
Tout à fait. La grande différence entre le bénévolat et le volontariat, c'est comme vous l'avez dit, le bénévolat repose sur la gratuité hein, totale, alors que le volontariat permet de bénéficier d'une indemnisation.
Donc plusieurs formes de volontariat.
Il y a plusieurs formes de volontariat qui existent. En France, peut-être la forme de volontariat aujourd'hui qui se développe le plus, c'est le service civique, mais c'en est une parmi d'autres. Il y a aussi des formes de volontariat qui se développent à l'international, qui permettent voilà, de partir à l'étranger et de développer une mission volontaire, mais hors de la France.
Le service civique a un cadre juridique très précis
que
les associations doivent respecter.
Oui, alors les missions qui sont proposées doivent répondre aux principes d'intérêt général, de non-substitution à l'emploi et d'accessibilité à tous les jeunes, quel que soit leur profil. Donc il faut bien comprendre que le service civique, ça n'est pas une forme d'emploi déguisé, c'est pas de la main-d'œuvre bon marché, c'est une forme d'engagement et ça doit faire l'objet, en tout cas c'est la vision que l'on a à la FEP, d'une co-construction, d'un projet entre l'association qui accueille et le jeune qui s'engage à travers ce service civique.
Voilà, donc il y a un double intérêt.
Tout à fait. Il faut vraiment qu'on soit dans la réciprocité et une fois de plus, dans la co-construction. C'est un projet qui doit se construire avec le jeune et avec le tuteur.
Alors quel serait par exemple l'intérêt pour une association d'avoir quelqu'un qui fait son service civique ? Ça va être différent de ce qu'on va lui demander par rapport à quelqu'un qui serait bénévole.
Alors, la grosse différence, c'est peut-être aussi entre le bénévolat et le service civique, c'est que les volontaires en service civique doivent effectuer un minimum de 24 heures par semaine de présence hein, et de travail. Donc, c'est un petit peu différent du bénévolat où là, ça peut être un engagement selon la disponibilité de chacun.
Donc, il y a une exigence.
Il y a une exigence qui est plus forte et puis ça permet de construire aussi des projets dans la durée un peu plus importants et ça permet mais aux jeunes d'être porteurs de projets. Et nous, c'est ce que nous proposons vraiment aux jeunes qui sont accueillis chez nous, c'est qu'ils puissent avoir un projet qui est à eux, qui vont développer, accompagner, porter vraiment. Et c'est une façon pour eux aussi de rentrer dans la compréhension du monde du travail, tout en leur laissant la possibilité de faire des erreurs, parce que ils peuvent aussi se tromper, ils sont là pour ça. Mais voilà, ça leur permet d'avoir cette compréhension aussi de la responsabilité aussi qui est liée au fait de porter un projet.
Alors, à la Fédération d'entraide protestante, en ce moment, vous avez des services civiques, peut-être un ou deux, je ne sais pas combien.
Alors, plus qu'un seul maintenant, nous en avions deux, pardon, une mission en web reportage qui a donné lieu à de très beaux résultats puisqu'on a pu réaliser un reportage sur l'accueil des réfugiés d'Irak et de Syrie. Donc c'était à la fois une belle expérience et pour Margot Mérandon, donc qui est en service civique chez nous, et puis pour nous, parce que c'est un très beau rendu aussi de la mission d'accueil qui est portée par la Fédération. Et puis nous avons une deuxième mission en service civique, donc qui est Laure Johanna, et qui là est une mission consacrée à la promotion de l'engagement auprès de l'enfant de jeunesse.
Alors justement, je l'ai interviewée, voilà ce qu'elle a pu nous dire.
J'ai déjà pu être introduite un petit peu au monde salarié et c'est vrai que ce qui m'a un peu déroutée dans mon service civique, c'est que la dimension hiérarchique, elle est complètement brouillée parce que les rapports que j'ai avec les gens finalement de l'association sont des rapports vraiment de confiance et d'égal à égal. Et donc du coup, ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi. Et ça m'a introduit à une toute nouvelle forme aussi d'engagement. C'est pas une forme de bénévolat où finalement on me demande de faire quelque chose. Où là, je prends des initiatives et les gens m'écoutent. Les gens prennent vraiment au sérieux ce que je dis. Ça m'a permis aussi de me développer moi personnellement. Et finalement, je me sens vraiment prête à passer à l'étape supérieure grâce à ce service civique.
Qui vous permettra d'aborder le monde du travail autrement.
Exactement, oui. Avec beaucoup plus de confiance et de sérénité aussi à l'avenir.
Alors, qu'en pensez-vous, Pauline Simon ?
Bah écoutez, moi je suis très heureuse d'entendre ça. Ça me paraît effectivement répondre un petit peu à nous, aux objectifs aussi que nous nous fixons. Comme je disais, l'intérêt pour les jeunes qui sont accueillis, c'est qu'ils puissent développer cette confiance en eux. Et pour ça, il faut à la fois les laisser se tromper, parce que une fois de plus, on apprend comme ça, et puis on a tous commencé nous aussi en faisant des erreurs, en corrigeant, en modifiant. Mais voilà, l'erreur permet d'apprendre, et puis on leur explique tout simplement qu'il y a peut-être une autre façon de faire, et puis ils corrigent, ils avancent, ils évoluent. Et je crois que quand leur Johanna parle de gagner en confiance en soi, je pense que ça passe aussi beaucoup par ça. Je suis aussi heureuse de l'entendre dire qu'elle sent que son avis est écouté, parce qu'effectivement, on n'est pas là que pour donner, on est là aussi voilà, pour échanger. Alors c'est vraiment une co-construction, et Laure Johanna arrive aussi souvent avec des idées. Alors parfois il faut un petit peu mettre le haut là, parce que les jeunes ont plein d'idées, et puis nous on est un peu plus dans le mais comment on peut faire dans le concret, concrètement, voilà, exactement. Mais c'est très bien, parce que nous, ça nous ouvre un peu aussi le champ des possibles. Je pense que plus on évolue dans le monde du travail, plus on est quelque part un peu formaté par les possibles, par les contraintes, et que ça nous empêche parfois d'être un peu plus créatif ou d'oser un peu plus. Et les jeunes arrivent et nous apportent ça. Pour eux, il n'y a pas de limite, rien n'est impossible, rien n'est infaisable. Et quand on combine à la fois cette créativité qu'ils ont et nous, notre expérience, ça peut donner de très beaux résultats.
Et ce qui est beau, c'est qu'elles se projettent aussi déjà dans l'avenir.
C'est ça qui est, oui, super. Voilà. Et puis l'entendre dire que pour la suite, ça lui apportera ce dont elle a besoin, c'est tout à fait ce qu'on attend et ce qu'on souhaite des services civiques.
Pour justement accueillir un service civique, ça demande de très nombreuses démarches.
Effectivement, les associations pour accueillir des services civiques doivent demander un agrément auprès de l'Institut du service civique. Ce sont des démarches qu'il faut faire, mais il y a également des associations qui existent, hein, comme Visa Année Diaconale, qui proposent de faire bénéficier aux associations de leur agrément, et puis qui proposent également un accompagnement, que ce soit auprès des associations et auprès des jeunes, avec une formation notamment à la vie civique. Voilà, donc Visa AD peut être une option aussi pour être accompagné lorsque les associations n'ont pas toujours le temps et l'énergie nécessaires pour s'occuper elles-mêmes des démarches et de l'accompagnement administratif.
Donc c'est une aide vraiment que les associations peuvent entendre là.
Tout à fait. C'est un service en tout cas qui est disponible pour elles si elles le souhaitent.
Vous dites Visa AD, c'est Visa Année Diaconale.
Tout à fait.
Donc le bénévolat, pour les associations, c'est, on va dire, vital.
Oui, beaucoup d'associations ont besoin aujourd'hui du bénévolat et peuvent mener les activités qu'elles mènent aussi grâce à des bénévoles assez nombreux.
Donc il y a un engagement citoyen dans le bénévolat, il y a toutes sortes de mobiles pour lesquels on peut s'engager dans une association.
Tout à fait. Je pense aussi qu'on parle souvent du désintérêt pour la vie politique française. Je suis pas certaine qu'il y ait un désintérêt fondamental. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il passe également aussi par ces formes d'engagement, que ce soit le service civique qu'on a évoqué ou le bénévolat, qui sont des formes d'engagement et des formes de politisation. Peut-être aussi que les gens ont besoin d'un peu plus de concret, et que pour eux, pouvoir s'investir quelques heures par semaine, par mois dans une association, c'est aussi là une façon de prendre la parole politiquement, et en tout cas de revendiquer certaines idées et certaines valeurs.
Et de faire quelque chose.
Et de se sentir utile très concrètement, oui.
Pour la cause même.
Tout à fait.
Alors on a tendance à dire aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de gens qui s'engagent justement comme bénévoles. Est-ce que c'est vrai ?
Écoutez, nous en tout cas, c'est pas la tendance qu'on observe. On constate plutôt le contraire. De plus en plus de gens souhaitent s'engager. On l'a vu, nous, très récemment sur la question des migrants, hein, par exemple, et des réfugiés. À la Fédération, donc, nous sommes chargés de collecter les offres d'hébergement qui sont proposées. Ce sont des bénévoles, hein, qui accueillent gratuitement des personnes chez eux, qui les accompagnent dans les démarches administratives, dans le retour vers l'emploi. Ce sont aussi des formes d'engagement et de bénévolat que nous rencontrons, et on peut que constater une très forte mobilisation. Et je crois que moins les politiques arrivent à répondre aux questions que se posent les citoyens, sur notamment la question des migrants par exemple, plus les citoyens cherchent, eux, à s'engager concrètement eux-mêmes auprès des associations pour pouvoir faire quelque chose. Et puis on constate aussi chez les jeunes une forte envie de s'engager. Et là, le problème est souvent pour eux de savoir, mais concrètement, et
qu'est-ce que je peux faire ?
Voilà, on est souvent dans cette question-là. Concrètement, qu'est-ce que moi je peux faire face à des problèmes qui souvent leur paraissent un petit peu trop compliqués, trop importants pour eux ? Comment moi, petit jeune, je peux agir sur le monde, sur ma société, sur la question des migrants ou autre, sans que ce soit de la petite goutte d'eau ? Ils ont envie de sentir qu'il y a quelque chose, voilà, de très concret qui se passe. Mais on sent en tout cas qu'il y a cette envie de s'engager, et c'est pour ça aussi qu'on part à la rencontre, et notamment Laure Johanna part à la rencontre de ces jeunes pour leur expliquer comment ils peuvent s'engager.
Alors vraiment c'est très facile, si on a envie de s'engager, sur internet contact@engagement-protestant.fr.
Tout à fait.
Merci Pauline Simon.
C'était l'invité du service radio de la Fédération protestante de France, au micro de Chantal Crétaz, réalisation Michel Schaeffer.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute l'équipe. Juste avant, c'était l'interview en partenariat avec la Fédération protestante de France. À présent, c'est Bernard Sauvagna qui vient de nous rejoindre dans le studio pour sa chronique des gens comme vous et moi.
Des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et extraordinaire tirée de la Bible.
Keren Apuk. Ce nom composé se traduit de façon très simple par « boîte à phare », c'est-à-dire en fait un instrument qui appartient à la trousse de toilette ou de beauté d'une jeune fille qui veut se farder les yeux, qui veut mettre des colorants autour de ses yeux, soit du noir pour souligner ses cils et ses sourcils, soit du colorant pour entourer ses yeux, ses beaux yeux. Et il est évident que ce nom-là est un nom qui a été donné par des parents à une fille qui leur paraissait très belle et digne peut-être des plus beaux concours de beauté. Or, curieusement, le nom de cette fille a été donné par Job. Job, ce personnage dont on dit pauvre comme Job, est un personnage dont l'histoire est racontée dans un livre de la Bible qui est une véritable pièce de théâtre dramatique et qui pourtant se termine bien. Et c'est justement au moment où cette histoire se termine que l'on nous parle de cette fille. On nous dit que finalement Job a retrouvé la santé, qu'il a retrouvé ses richesses et qu'il a eu de nouveau des enfants. Et parmi ces nouveaux enfants de Job, qui ont remplacé ceux qui étaient décédés tragiquement au début de l'histoire, on nous dit qu'il a eu 7 fils et 3 filles. Et Keren Apuk est la plus jeune, la dernière de ces 3 filles. Peut-être celle qui lui a paru la plus précieuse, en tout cas la plus jolie. Et c'est intéressant qu'un personnage comme Job donne un tel nom à une de ses filles. D'abord, cela montre qu'on est à une époque qui, comme à toutes les époques de l'histoire du monde, eh bien, manifeste que les jeunes filles, eh bien, souhaitent être belles, souhaitent charmer et ont trouvé des moyens de souligner leur charme pour les faire remarquer et apprécier. Et ça nous montre en plus que des personnages qui sont considérés comme proches de Dieu, comme ayant respecté la volonté de Dieu, se trouvent tout à fait à l'aise de souligner une telle caractéristique chez une de leurs filles. Peut-être que parfois, des lectures très puritaines de la Bible ont pu déformer les choses et faire penser que le désir de beauté était forcément malsain quoi qu'il arrive. Le Dieu de la Bible a créé la beauté, c'est un artiste merveilleux et il n'a certainement aucune objection à ce que nous soyons beaux. Mais la beauté de l'être humain, masculin comme féminin, ne consiste certainement pas en excès du fard. Oui, mais bien choisi, bien mis, bien utilisé, c'est certainement quelque chose qui peut être tout à fait acceptable et même intéressant. Voilà, Keren Apuk, boîte à phare, la troisième et dernière fille de Job après son rétablissement, que vous trouverez mentionné donc au chapitre 42 de ce livre de Job.
C'était une chronique de Bernard Sauvagnat.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu? En recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30, je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.